Chapitre 20. Il y a là un monsieur qui veut voir monsieur le duc. Il s'est déjà présenté hier. Il vient de la part de monsieur le docteur Harly. Ce fut par ces mots que Bernard réveilla son maître le lendemain matin. Son professeur. Roger l'avait oublié, son esprit n'étant point habitué à se porter sur de pareils sujets. Mais le nom du docteur Harly lui rappela de quoi il s'agissait. « Monsieur Crozat, n'est-ce pas » dit-il. S'étant levé et ayant vivement passé un pantalon et un veston de molleton blanc, Roger entra dans le salon où Crozat l'attendait. C'était un homme de grande taille, à cheveux plats grisonnants, tombant droit comme des chandelles, à large tête, avec un gros nez et des lèvres épaisses, soigneusement rasées de près comme un prêtre ou un comédien, vêtu d'un habit noir lustré aux coutures, ayant une seule main gantée d'un gant de couleur indicible. En tout, l'air d'un maître d'études ou d'un homme de lettres travaillant à des dictionnaires, mais avec quelque chose d'ouvert et de bon enfant qui, tout de suite, prévenait en sa faveur. « Monsieur le duc, » dit-il d'une belle voix pleine et sonore, « le docteur Harly m'a dit que vous aviez besoin d'un secrétaire et je viens vous offrir mes services. » Roger se mit à sourire. « Notre ami, le docteur Harly, dit-il, a mis trop de délicatesse dans ses paroles. Il m'a trop ménagé. Ce n'est pas d'un secrétaire que j'ai besoin, c'est d'un professeur. Ce qu'il me faut, ce n'est pas quelqu'un à qui je dicte mes lettres, c'est quelqu'un qui me dicte les miennes en me les épelant pour que je ne fasse pas de faute de dictée. Et que voulez-vous apprendre, monsieur le duc ? Tout, puisque je ne sais rien, c'est-à-dire que je sais des commencements, mais seulement des commencements. En rien, je n'ai été loin. » Cela fut dit très franchement et en se tenant aussi loin de l'humilité que de la forfanterie. Les choses étaient ainsi et il les annonçait telles qu'elles étaient. C'est ainsi qu'en grammaire latine, je sais « rosa » et « bonus ». En grammaire française, je connais le substantif et je sais que « œil » fait « lieu » au pluriel. Mais on ne m'a jamais parlé de l'adjectif ni des autres mots. En histoire sainte, j'ai suivi Joseph jusqu'au moment où il est jeté dans la citerne, mais je l'ai laissé dans cette position fâcheuse et j'ignore absolument s'il s'en est tiré. En histoire de France, je connais des rois qui se nomment Pharamond, Mérové, Clodion. Mais il ne faut rien me demander après Clovis. J'ai, il est vrai, entendu parler de Henri IV, de Louis XIV, de Napoléon, mais incidemment. En réalité, je devrais croire que Napoléon III a succédé à Clovis. » Crozat se prit à rire. « Bien certainement, cela est drôle, » continua Roger, « mais c'est encore plus triste pour moi. » « Ce qui me fait rire, monsieur le duc, c'est moins la chose en elle-même que la bonne humeur avec laquelle vous la comptez, le tour que vous lui donnez. Il est vrai que tout cela est, au fond, fort triste pour vous. Mais vous ne devez pas vous en trop inquiéter. Je vous donne ma parole qu'en peu de temps nous comblerons ces lacunes qui existent dans vos connaissances. Vous ne sauriez croire combien, avec de l'application, on peut apprendre vite. Seulement, avant de nous mettre au travail, vous voudrez bien me dire dans quel sens nous devons l'entreprendre. » « Je ne comprends pas. » « Alors prenons l'histoire, si vous le voulez bien, pour nous servir d'exemple. Quelle histoire voulez-vous que je vous enseigne ?» Comment, quelle histoire? Mais l'histoire? Mais il y en a plusieurs, l'officielle ou la libre, la traditionnelle ou la vraie, l'utile à savoir pour faire son chemin, l'utile à savoir pour soi. Laquelle voulez-vous? Le duc le regarda avec surprise, réfléchissant. Vous m'avez dit, continua Crozat, que vous avez commencé à apprendre l'histoire sainte. Devons-nous continuer cette histoire d'après la Bible, livre sacré? Ou bien devons-nous l'étudier d'après les travaux de la critique moderne en accordant à la Bible d'autres valeurs que celles d'être un recueil de légendes, de traditions recueillies et mises bout à bout tant bien que mal par Esdras pour donner une loi au peuple juif et le ramener dans la patrie après la captivité de Babylone? Le duc resta un moment silencieux avant de répondre. « Les Norouzes, dit-il enfin, ont toujours été élevés et ont toujours vécu dans la foi catholique. Je désire garder la religion de mes pères. » Très bien, monsieur le duc, c'est justement pour être fixé à ce sujet que je vous ai adressé cette question. Au reste, continua Roger, Il me semble qu'avant d'en venir à ces graves questions, nous en avons d'autres plus élémentaires et plus simples à étudier. Ainsi, il en est une qui, pour moi, est une cause d'humiliations incessantes par les sottises qu'elle me fait faire, aussi bien que par les hésitations qu'elle m'impose. Elle m'agace, m'irrite, me paralyse et me rend vraiment malheureux, comme le ferait une infirmité honteuse. Et laquelle donc ? Celle de l'orthographe. Pour cela encore, rassurez-vous, je comprends que ce soit un tourment pour un homme qui a toutes les élégances, mais il ne faut pas vous exagérer les difficultés de l'orthographe et de la grammaire. Vous verrez qu'en peu de temps, en très peu de temps, ces difficultés s'aplaniront. En causant, en lisant, quand un mot qui demande explication se présentera, je vous dirai la règle qui régit ce mot et vous la retiendrez sans avoir eu besoin de l'apprendre. Quand voulez-vous que nous commencions ? Mais tout de suite, si cela vous est possible. Tout de suite, alors. Seulement avant, je vous prie de me montrer votre bibliothèque. Je n'ai pas de bibliothèque. Vous avez bien quelques livres. En dehors des mémoires de mon grand-père, le duc François, bien peu. Mais encore. Ce que j'en ai doit se trouver dans une armoire de la salle à manger. Allons voir. En effet, ils étaient où ils devaient se trouver. Mais la revue en fut vite faite. Quelques volumes du studbook, quelques calendriers des courses, l'almanach de Gotha, un annuaire de la noblesse, trois ou quatre romans nouveaux, et c'était tout. « Ce ne sera pas tout à fait suffisant, » dit Croza. « Je le pense. Je passerai aujourd'hui à la librairie nouvelle et donnerai des instructions pour que vous puissiez faire envoyer ici tout ce que vous choisirez. » Les heures que Roger employa à travailler avec Croza eurent cela de bon pour lui que, pendant ce temps, il ne pensa pas à Raphaël, dont le souvenir depuis la veille l'avait poursuivi, quoi qu'il fît pour le chasser. Comme la leçon touchait à sa fin, le valet de chambre entra timidement. « Je ne veux pas être dérangé, » dit Roger. « C'est monsieur le vicomte de Mautravers, je n'ai pas pu... »« Eh bien, qu'il attende quelques minutes. » Mais Mautravers entrait dans la chambre. « Si j'avais su vous déranger, » dit-il en tendant la main à Roger, « je ne serais pas monté. » D'un coup d'œil rapide, il regarda Croza qui s'était mise à écrire. Puis ses yeux coururent sur les livres et les cartes qui encombraient la table. « Nous avons fini, » dit Roger. « Ah, vous travaillez le matin maintenant ?»« Oui, vous voyez. » Ce ne fut pas sans un certain embarras que Roger fit cette réponse. Croza, qui, sans en avoir l'air, était attentif à ce qui se passait, remarqua l'embarras de cette réponse, de même qu'il avait remarqué la curiosité de Mautravers, et il crut devoir venir au secours de son élève en jouant ostensiblement son rôle de secrétaire. « Si monsieur le duc veut bien signer cette lettre, » dit-il en se levant pour aller présenter une feuille de papier à Roger. Mais au moment où celui-ci, qui faisait face à Mautravers, allait prendre cette feuille de papier, Croza la retint. « Ah, pardon, » dit-il, « quelle distraction ! Je vois que j'ai écrit cravate avec deux T et il n'en faut qu'un, n'est-ce pas ?» Roger le regarda stupéfait. « Je prie monsieur le duc de m'excuser, » continua Croza avec un calme imperturbable. « Je recommencerai la lettre et, comme elle n'est pas pressée, je la présenterai demain à la signature de monsieur le duc. » Puis, faisant un paquet de tout ce qui se trouvait sur la table, il l'emporta pour le soustraire à la curiosité de Mautravers. « Vous avez donc un secrétaire ?» demanda Mautravers lorsque Croza eut refermé la porte. « Moi, si j'en prenais un, je voudrais qu'il fût plus sûr de son orthographe que ne l'est le vôtre. » Roger ne répondit rien. Alors la conversation s'engagea sur d'autres sujets. Elle se prolongeait depuis assez longtemps déjà, lorsque tout à coup Mautravers s'interrompit. « À propos, dit-il, je viens de rencontrer Raphaël. Vous savez qu'elle est dans un état violent ?»« Pourquoi donc ?»« Comment pourquoi donc ? Vous êtes vraiment superbe avec votre flegme. Pour votre abandon ?»« Oh, mon abandon !» Le mot n'est pas de moi, il est d'elle. À la façon dont vous aviez pris feu comme une allumette, Raphaël avait cru que vous éprouviez pour elle autre chose qu'un caprice, qu'une fantaisie de quelques heures, et elle avait bâti toutes sortes de combinaisons là-dessus. Pour une fille qui arrivait de Russie ruinée et qui tombait tout de suite sur le duc de Naurouze, majeur, maître d'une belle fortune, le rêve était séduisant. Elle vous a dit cela ? Ah, pas du tout ! C'est moi qui explique ainsi son désespoir. Pour elle, c'est, vous avez dû vous en apercevoir, une drôle de fille, excentrique, originale, qui ne fait rien comme les autres. Et son désespoir, qu'elle crie très haut, elle l'explique en disant qu'elle s'est toquée de vous, comme cela, à première vue, en quelques heures. Après tout, cela est bien possible. Roger ne répondit pas, mais Mautravers remarqua un léger trouble dans son regard qui se détourna. « Je me suis d'abord moqué d'elle, dit-il en continuant, mais à la fin, elle m'a positivement fait pitié. Alors, vous ne voulez pas la revoir ? Après tout, vous avez peut-être raison d'être prudent. Raphaël est fille à mener loin l'homme qui tomberait sous son influence. Je crois bien que si j'étais à votre place, je ferais comme vous. Et cependant, si j'avais encore une fortune à dépenser, je lui en donnerais à croquer une bonne part avec plaisir. » « Moi, je veux garder la mienne, » dit Roger. « Vous nous l'avez dit l'autre jour, mais je ne voulais pas le croire. »« Eh bien, vous aviez tort. »« Alors, c'est tout simplement parce que vous avez peur que Raphaël vous fasse faire des folies que vous ne voulez pas la revoir. »« Si la pauvre fille savait cela, ce serait au moins une consolation pour elle. »« Elle s'imagine qu'elle vous a déplu, tandis qu'au contraire, elle vous a trop plu et vous avez peur d'elle. » « Vous êtes beaucoup trop prompt à tirer des conclusions sur ce que je veux ou ne veux pas, sur ce que je ferai ou ne ferai pas. »« Cela vient sans doute de ce que vous ne dites rien. »« Si je ne dis rien, cela vient peut-être de ce que je n'ai rien à dire. » Il était difficile de continuer l'entretien sur ce ton. Mautravers ne l'essaya pas. Si Roger n'avait rien à dire, c'est qu'il ne voulait pas s'expliquer. En réalité, les paroles de Mautravers l'avaient frappé et ému. Jusque-là, en pensant à Raphaël, il ne s'était occupé que de ce qu'il éprouvait pour elle et pas du tout de ce qu'elle éprouvait pour lui. L'idée ne lui était même pas venue qu'elle pouvait éprouver quelque chose. Qu'elle voulût être sa maîtresse en vue des avantages qu'elle pouvait tirer de cette position, cela il l'avait admis, mais sans aller plus loin et sans s'imaginer qu'un sentiment quelconque pouvait se mêler à ce calcul. « Toqué de lui, » disait Mautravers.